Radio Prague, les informations.
Près de 8000 armes illégalement détenues ont été rendues dans le cadre d'une amnistie. 135 cas de grippe A en République tchèque depuis le début de l'épidémie. Et le film Tobrouk va concourir pour le prix de l'Académie du film européen. Je vous le disais en titre, 7897 armes précisément ont été déposées à la police dans le cadre d'une amnistie sur le port illégal d'armes. Cette amnistie couvrait une période allant du 1er février au 31 juillet. Pendant ces 6 mois, plus de 6000 personnes ont ainsi déposé leurs armes aux autorités. Ces armes sont à l'heure actuelle expertisées. Si l'arme en question n'a pas servi à commettre un crime, leurs détenteurs pourront la récupérer, demander à se faire établir des papiers permettant leur port légal. Ce n'est pas la première fois que ce type d'amnistie est lancé par les autorités, mais c'est la première fois qu'autant d'armes ont été récupérées par la police. Un an après le tragique accident de train de Studenka qui avait fait 8 morts et quelques 70 blessés, aucun monument n'a été encore érigé à la mémoire des victimes. Rudolf Svoboda, qui a initié le projet de monument, espère qu'il sera enfin érigé en novembre. Rappelons que l'enquête sur la pire catastrophe ferroviaire en République tchèque depuis 1995 n'a toujours pas été close. 3 touristes tchèques sont morts mardi après-midi dans un accident de la route en Bulgarie. Le conducteur de la voiture immatriculée en République tchèque serait mort sur le coup. Les 2 passagers lors de leur transport à l'hôpital de Burgas. L'Institut national de la santé a annoncé mercredi 19 nouveaux cas de grippe porcine dans le pays, ce qui élève le nombre de personnes atteintes à 135. Selon les autorités tchèques, pour l'instant, aucun cas n'est considéré comme sérieux et aucune victime n'est à déplorer. À ce jour, les spécialistes s'attendent à ce que dans quelques semaines, le nombre de cas augmente de centaines par jour. Le ministère a demandé ce mercredi aux régions d'évaluer d'ici la mi-septembre combien de personnes devraient être vaccinées contre la grippe A. L'aéroport de Prague effectue actuellement des essais dans ses 2 principaux terminaux pour mettre à disposition des voyageurs un accès à Internet sans fil. Dans les prochains jours, la connexion de base sera gratuite, mais l'aéroport proposera également un service payant pour une meilleure vitesse de connexion et des services de téléchargement. Le film Tobruk du réalisateur Václav Marhol a été sélectionné pour concourir pour le prix de l'Académie européenne de cinéma dans la catégorie fiction. L'an dernier, c'est la documentariste tchèque Helena Třešťíková qui avait remporté le prix dans la catégorie documentaire pour son film René. Tobruk est un film de guerre qui évoque les volontaires tchécoslovaques engagés en Afrique du Nord auprès des Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et après le River Film Fest, c'est le cinéma Lucerna et le centre Franz Kafka à Prague qui reprendra le cycle consacré par le festival au célèbre écrivain pragois de langue allemande. Ce cycle s'inscrit également dans les célébrations du centenaire de ce cinéma pragois de renom. Jeudi, jour de fête des Oldrichka, la météo sera ensoleillée avec un ciel de traîne par endroits. Les températures restent très agréables avec des maximales entre 22 et 26 degrés. Le temps devrait être stable et estival au moins jusqu'à la fin du week-end. C'est la fin du bulletin de Radio Prague présenté par Anna Kubichta.
Bonjour à tous, vous écoutez Radio Prague, c'était les informations présentées par Anna Kubichta. Tout de suite, les faits et événements de ce mercredi 5 août. Dans l'actualité, le chômage continue d'augmenter en République tchèque avec un bond de 2,2% au deuxième trimestre. La crise touche aussi le tourisme, les Français ne boudent pas Prague mais ont modifié leur comportement de consommateurs. Culture, le château de Prague accueille une exposition sur Rabilov à l'occasion du 400e anniversaire de sa mort. Et enfin football, le Sparta de Prague quitte déjà la Ligue des Champions après sa défaite contre les Grecs du Panathinaikos mardi soir. Le taux de chômage a atteint 6,4% à la fin du deuxième trimestre de cette année, soit 2,2 points de plus que l'année dernière. C'est la plus grande augmentation depuis 1999, ce qui porte le nombre de chômeurs en République tchèque à près de 334 000. Du côté des spécialistes, on considère que la rapidité avec laquelle le marché du travail réagit aux difficultés économiques du pays est exceptionnelle. Václav Richter pour plus de précisions.
Selon l'analyste de la banque Česové Petr Dufek, la hausse du chômage en République tchèque va encore se poursuivre, mais à une cadence moins rapide, pour atteindre jusqu'à 8% dans les prochains mois. Il ne faut pas s'attendre à une amélioration avant le milieu de l'année prochaine, où un nombre plus important de nouveaux emplois pourrait être créé. Actuellement, la situation la plus difficile est signalée dans les régions de Bohême du Nord et de Moravie du Nord, ce que confirme Svatava Badurova de l'Agence pour l'emploi de la ville d'Ostrava.
L'évolution de cette année est très négative. Par rapport à l'année dernière, le nombre de demandeurs d'emploi à Ostrava a augmenté de 34%, soit près de 5000 personnes. En comparaison avec l'année dernière, le nombre de postes disponibles a diminué de 80%. Les offres d'emploi sont extrêmement limitées.
Boris Dlouhý de l'Union de l'industrie et des transports estime que la situation pourrait encore se détériorer.
Selon les informations qui nous viennent du secteur industriel, certaines entreprises réduisent leur production à 30% de leur capacité et le nombre de licenciements dans ces entreprises ne correspond pas à cette réduction. Cela signifie donc qu'il faut s'attendre encore à de nouveaux licenciements.
L'analyste de la Raiffeisen Bank, Helena Horská, rappelle que le chômage varie selon les catégories d'employés.
Ce sont les personnes en fin d'études, donc les demandeurs d'emploi très jeunes, qui sont les plus touchés. Mais la situation est difficile aussi pour les travailleurs dans l'industrie, donc dans les domaines de la production. Certains chômeurs cherchent une issue à leur situation en acceptant de travailler en sous-traitance avec une licence professionnelle.
D'autres employés acceptent une diminution de leur salaire, une réduction du nombre d'heures de travail et des congés obligatoires, autant de décisions qui s'avèrent toutefois encore insuffisantes pour sauver leur entreprise et leur travail. Ce sont les personnes ayant fait des études supérieures qui sont les moins défavorisées, avec un taux de chômage qui ne dépasse pas 1,9% dans leur catégorie. Pour les personnes ayant fait des études secondaires, le nombre de chômeurs se lève à 4,4%, et parmi les employés ne possédant qu'une formation primaire, le taux de chômage grimpe jusqu'à 23,8%. Pourtant, par rapport aux autres pays européens, la situation des Tchèques n'est pas la plus inquiétante. Selon les données publiées par Eurostat, en juin dernier, avec un taux de 6,3%, la Tchéquie se trouvait toujours en dessous de la moyenne de l'Union européenne, qui s'élevait à 8,9% et même à 9,4% dans la zone euro.
Crise mondiale oblige, le tourisme pragois a tendance à décliner, à tel point que la municipalité a décidé de lancer une gigantesque campagne publicitaire dès la rentrée pour pas moins de 50 milliards de couronnes. Mais qu'en est-il des touristes francophones? Ont-ils déjà déserté Prague pour s'offrir des vacances moins chères à domicile? Au pied de l'horloge astronomique, la crise paraît ne jamais avoir eu lieu, tant les touristes sont nombreux à attendre le célèbre ballet des automates. Il suffit de tendre l'oreille pour comprendre que la grande majorité des touristes pragois sont étrangers. Parmi eux, nombreux viennent de France. Un peu plus loin, sur le pont Charles, nous avons rencontré Geneviève et Catherine. Elles avaient prévu de venir passer quelques jours à Prague depuis longtemps et n'ont pas changé d'avis. La crise, elles en ont plus entendu parler que véritablement ressenti les effets.
Je dirais heureusement, on n'a pas trop de soucis, donc c'est vrai qu'on fera peut-être un petit peu plus attention, d'acheter moins futile, mais pour les pauses comme les vacances avec les amis, on n'a pas bougé d'un iota, voilà notre façon de faire.
Et pour Prague, vous allez faire un peu plus attention pendant vos quelques jours ici?
Bah, c'est les vacances. Voilà, c'est la réponse.
Donc les vacances
Non, on se lâche un peu pendant les vacances et puis on verra la rentrée. S'il y a besoin de serrer la ceinture, eh ben, on le fera à ce moment-là.
D'une manière générale, les touristes français sont unanimes. Crise ou pas crise, pas question d'annuler leur départ pour Prague. En revanche, pour beaucoup, c'est une fois sur place qu'il faut faire attention au budget. Et pour des vacances à coût réduit, Fabienne de Normandie ne manque pas d'imagination.
On va pas à l'hôtel, on ne va pas au restaurant, on dort dans notre voiture. On se fait juste 2 jours dans un camping à Prague, donc ça va vraiment être très très peu. Et puis nous, comme on se nourrit d'une boîte de thon et de fruits et de tomates, tout va bien. Mais c'est les petites combines. Mais c'est les petites combines de vie en général. C'est pas propre au moment de la crise. C'était déjà les petites combines l'année dernière. C'était déjà les petites combines il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais je pense qu'effectivement, s'il y avait hôtel à réserver, restaurant, ce serait complètement exclu.
Les Français sont donc toujours bien présents dans les rues de Prague, même s'ils avouent pour la majorité avoir réduit leur budget et donc faire plus attention au prix. C'est un constat partagé par Patrick Bellon, il est le cofondateur d'une agence de voyage spécialisée dans l'accueil de touristes francophones, Avant-Garde Prague. La crise, selon lui, n'a pas été catastrophique pour le tourisme de loisirs, mais elle a modifié le comportement des touristes.
Il y a effectivement une petite baisse de fréquentation, mais finalement, les Français sont là. Ils sont là, mais le concept de voyage a changé, c'est-à-dire qu'on vient pour une période plus courte que les années précédentes. Ils viennent pour 5 jours. Avant, c'était beaucoup plus courant d'avoir des gens qui étaient là pour 7-10 jours. Ils font des économies, c'est-à-dire que sur le comportement, ils vont plutôt préférer un hôtel moins cher, donc faire des économies et, sur ce genre de prestations. Mais bon, on est là quand même pour visiter, pour découvrir. Donc sur les visites guidées, moi, j'ai pas véritablement senti une baisse de fréquentation significative.
Le tourisme de loisirs n'est donc pas encore en danger à Prague. D'un point de vue général, la fréquentation des touristes étrangers continue d'augmenter chaque année, même si cette croissance est aujourd'hui ralentie. L'année dernière, ils étaient 4,5 millions à avoir fait le déplacement, permettant à Prague de se placer en 7e position des capitales d'Europe les plus visitées. En revanche, c'est bien la durée du séjour qui a tendance à diminuer. À l'inverse, l'exigence des touristes vis-à-vis du prix des prestations est de plus en plus grande, comme leur capacité à trouver toutes les combines pour des vacances moins chères. 400 ans se sont écoulés depuis la mort du célèbre Rabbi Lev, toujours enterré dans le vieux cimetière juif de Prague. À cette occasion, le château de Prague, en coopération avec le musée juif de Prague, présente une exposition sur le créateur de la légende du golem. Objectif, révéler toute la richesse de l'œuvre de l'illustre rabbin. Anne-Claire Veluire s'est rendue à l'exposition.
Vraisemblablement né à Poznan, en Pologne, autour des années 1520, Judah Liva ben Bezalel, appelé Rabbi Lev, a été le rabbin de la capitale de la Bohême entre 1573 et 1609. Il est également connu sous le nom de Maharal de Prague, une abréviation de notre grand enseignant, le Rabbi Lev. Il est aujourd'hui connu à travers le monde, attaché à la légende du golem, cet être d'argile à qui le rabbin aurait donné la vie pour protéger le quartier juif de Prague, mais qui aurait connu une fin tragique. La légende du golem de Prague est l'une des plus importantes de la culture juive d'Europe de l'Est, mais l'objectif de l'exposition est surtout de mieux faire connaître toute l'ampleur de l'œuvre de Rabbi Lev. Arnaud Pargic, du musée juif de Prague, est l'un des commissaires de l'exposition.
Il faut dire qu'à cause de la légende des golems, Rabbi Lev est un peu caché. Et caché, il n'est pas bien connu, malgré son importance. Il est très important du point de vue pédagogique, parce qu'il a développé des méthodes pédagogiques qui étaient utilisées dans les siècles qui ont venu après. Et il est très original en ce qui concerne sa vision de l'homme et Dieu, l'importance de la terre promise. Et il est aussi très apprécié par Chassidim. Au 18e siècle, il est aussi apprécié par les sionistes religieux. Bon, nous sommes très heureux que nous pouvons aussi présenter des résultats, des travaux d'experts du musée juif, parce qu'ils ont découvert beaucoup de détails qui n'étaient pas connus en ce qui concerne l'origine de la famille de Rabbi Lev et aussi en ce qui concerne sa famille en large.
Parmi les objets phares de l'exposition, un document unique datant de 1597, issu des archives nationales de Vienne, où est apposée la signature de l'érudit. On peut aussi admirer une clochette de table faite d'un alliage de plusieurs métaux selon les instructions de la Kabbale. On y trouve aussi toutes sortes d'objets religieux ayant un lien direct ou indirect avec Rabbi Lev, comme la réplique du tombeau de l'un de ses parents, l'original n'ayant naturellement pas pu être déplacé du cimetière juif de Prague. Toujours dans le cimetière, on peut voir un document plus insolite, un cliché pris par la STB qui surveillait la tombe du rabbin, soupçonnant les opposants de l'utiliser pour y déposer des messages secrets. L'exposition essaie aussi de montrer à quoi pouvait ressembler le ghetto juif de la capitale à l'époque du rabbin. Enfin, la légende du golem n'est naturellement pas oubliée. À travers des peintures et des livres publiés les siècles suivants, l'exposition montre toute la place du golem dans la culture tchèque. Elle se tient dans les écuries impériales du château jusqu'au 8 novembre prochain.
Pour la quatrième saison d'affilée, le Sparta de Prague ne participera pas à la phase de groupe de la Ligue des Champions. Malgré son avance de 2 buts acquise au match aller grâce à sa victoire 3-1, le vice-champion en titre tchèque a été éliminé dès la 3e tour préliminaire par les Grecs du Panathinaikos. Devant ses 50 000 supporters, mardi soir, le club athénien s'est largement imposé 3-0. Retour sur le match avec Guillaume Narguet.
Pour la 2e saison d'affilée, le Panathinaikos a donc éliminé le Sparta dès le mois d'août en phase préliminaire de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mais au-delà de ce constat sec, il existe pourtant une différence et de taille entre ces deux déceptions. Car autant la qualification grecque n'avait prêté à aucune discussion la saison dernière, autant cette fois les Pragois peuvent nourrir de gros regrets. Leur succès probant et quelque peu inattendu du match aller avait en effet fait naître de nombreux espoirs. Pour que ceux-ci deviennent réalité, il aurait toutefois fallu que le Sparta évolue tout autrement sur la pelouse du stade olympique d'Athènes. En choisissant de se regrouper dans leur moitié de terrain et en acceptant de subir le jeu et la pression du Panathinaikos dès l'entame du jeu, les Tchèques ont creusé eux-mêmes leur tombe. Et les 2 premiers buts encaissés à des moments clés, soit juste avant la mi-temps pour le premier et peu après le retour des vestiaires pour le deuxième, ont scellé le sort de ce match retour. Un match qui pour le reste a été pratiquement à sens unique, tant la volonté de renverser la vapeur côté athénienne a contrasté avec la passivité pragoise. Avec seulement 2 joueurs âgés de plus de 30 ans alignés dans le 11 de départ, le Sparta a également souffert d'un cruel manque d'expérience. Dans un contexte de match européen couperet et dans une ambiance grecque survoltée, jamais facile à gérer, l'absence du capitaine et défenseur central Tomáš Řepka, blessé, s'est ainsi cruellement fait ressentir. Pour autant, au coup de sifflet final, l'entraîneur du Sparta, Martin Hašek, a refusé de faire du forfait du leader de l'équipe la cause du mauvais résultat de son équipe.
Tomáš Řepka, samozřejmě, že nám chyběl, ale místo něj hrál Nikita Honedr a ten hrál, myslím, velmi dobrý zápas.
Tomáš Řepka nous a manqué, c'est une évidence, mais son remplaçant n'a pas fait un mauvais match. Cela n'a pas de sens de chercher à savoir après coup dans quelle mesure l'absence de Řepka a pesé sur le résultat final. Ce n'est pas une excuse. Des joueurs forfaits, il y en a à tous les matchs et pendant toute la saison. On ne peut quand même pas s'attendre à ce que tous les joueurs disputent la 40aine de matchs de la saison sans jamais être absents. Il faut donc savoir composer avec l'effectif dont on dispose.
En toute fin de match, alors qu'il était mené 2-0 et était donc déjà virtuellement éliminé, le Sparta a eu à 2 reprises l'occasion de marquer ce petit but qu'il aurait qualifié. Cela aurait toutefois été immérité et le 3e but du Panathinaikos à 1 minute du terme est finalement apparu comme la conclusion logique de sa supériorité. Éliminé de cette Ligue des Champions tant espérée, le Sparta devra donc se consoler avec la Ligue Europa.
C'est tout pour aujourd'hui pour ce qui est du tour d'horizon de l'actualité tchèque. Mais restez avec nous pour la suite des programmes en français de Radio Prague. Tout de suite, un petit saut dans l'histoire tchèque avec votre traditionnelle émission du mercredi.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
Les origines du textile et son évolution en Bohême depuis le Moyen-Âge est le thème de cette page d'histoire. Nous vous proposons de réécouter l'histoire de la production textile dans notre pays, considéré encore dans les années 1980 comme une puissance mondiale. Très bonne écoute à toutes et à tous.
První Les premières références au textile sont aussi vieilles que l'humanité, dit le docteur Vlastimil Havlík, directeur du musée textile de Česká Skalice en Bohême orientale. Les premières trouvailles sur notre territoire remontent au 5e siècle avant Jésus-Christ, à la période néolithique, fragments de ficelles de chanvre dans le puits de Mohelnice en Moravie, empreintes du textile sur la surface de l'argile à Prague. L'évolution du textile, sa production et son usage reflétaient l'évolution de l'humanité depuis le Moyen Âge jusqu'à présent. Les récits de voyages du marchand juif Ibrahim ibn Yaqub du Xe siècle représentent le plus ancien rapport écrit sur la production de textiles en Bohême. Le commerce était basé sur le principe d'échange. Une toile fine servait de critère d'évaluation du prix. La toile en tchèque c'est platno, qui a donné lieu au verbe platit, payer. Il y a donc une liaison étroite entre l'histoire du textile et celle de la monnaie.
Důležitým mezníkem určitě bylo období 13. století, to znamená, to je to období, kde dochází dělbě práce.
Le 13e siècle marque un tournant, raconte le directeur du musée textile. C'est le début de la division du travail, la campagne agricole d'une part, et les métiers dans la ville de l'autre. C'est le début aussi des métiers tels que celui de tisserand, de brodeur. Au milieu du 13e siècle, le roi Przemysl Otakar II fait venir en Bohême les drapiers de Flandre qui maîtrisent des méthodes de fabrication d'étoffes plus évoluées. Au 14e siècle, les marchands hongrois importent de Venise le coton de Syrie et d'Inde. Le mot coton est mentionné pour la première fois dans le manuscrit de Saint-Guy au milieu du 14e siècle. La dentellerie se répand dans notre pays après 1560. Le bombyx du mûrier source de tissus de soie naturelle commence à se développer dans le pays dès le XVIIe siècle. Ce siècle est aussi celui des premières manufactures qui marque un essor sans précédent de la production textile. La première manufacture textile concentrée est fondée par les jésuites à Sobieslebi, en Bohême orientale, en 1684. Au fur et à mesure, on commence avec l'impression des étoffes. C'est le comte Józef Kinski qui est considéré comme initiateur de l'impression des étoffes dans ses manufactures près de Česká Lípa, au nord de la Bohême. En 1751 est fondée à Prague la première manufacture de tissus de soie. D'Espagne sont importés dans la monarchie habsbourgeoise des mérinos qui permettront une apparition d'étoffes à base de laine. Un tournant décisif se produit dans la première moitié du 19e siècle, poursuit Vlastimil Havlík, on l'écoute.
I k nám doráží vlastně průmyslová revoluce s tím vším, co je pro ně typické zavádění strojů.
La révolution industrielle arrive alors également en Bohème, avec tout ce qu'elle a de caractéristique, l'installation de machines, le développement des transports, l'introduction de nouveaux procédés, de nouvelles technologies, la fabrication de nouveaux matériels et notamment le caractère massif de la production du textile. Plus de 600 000 habitants de Bohême, soit près d'un cinquième de la population, se consacrent à la production du lin, de la laine et du coton. Après la défaite de Napoléon à Waterloo en 1815, suivie de la levée du blocus continental, la production textile plonge dans une crise. Mais depuis la moitié du 19e siècle, la situation s'améliore. La première usine de fabrication de rubans est fondée à Rumburk. La généralisation de la machine à coudre dans le pays tchèque bouleversera la façon de s'habiller, en rendant possible la suprématie du prêt-à-porter. En 1859, la firme Mayer & Mandt ouvre ses premiers ateliers de prêt-à-porter, les plus grands en Europe centrale. En 1880, on compte 1269 usines textiles équipées de machines à vapeur et employant 1067 000 ouvriers. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'industrie textile subit des influences étrangères, dont la plus forte, celle de France, comme le souligne notre guide.
Speciálně z Francie k nám přicházelo řada dezénů, a to z oblasti například Alsaska, z oblasti
Milou. De France, spécialement, nous est venu le design, plus particulièrement de la région d'Alsace, de Mulhouse, qui était le berceau d'écoles de design et de dessinateurs. Beaucoup d'Alsaciens sont venus en Bohême. Le plus connu parmi eux est Marius Stadler, qui a travaillé pour la firme renommée Josef Socher à Dvůr Králové-sur-l'Elbe. C'est lui qui a initié les défilés du textile et de mode et qui a fondé en 1936 le musée textile à Dvůr Králové.
Textilu a vlastně i zakladatel textilního muzea v roce 1936 ve Dvoře Králové nad Labem.
Au début du XXe siècle et la Grande Guerre ont porté un coup dur à l'industrie textile. Sous la Première République tchécoslovaque, elle vit une renaissance. Les créateurs de design sont des artistes célèbres dont Alphonse Mucha, des architectes marquants Pavel Janák et Jan Kotěra. L'évolution du textile est influencée par la fondation des premiers ateliers de tapisserie à Jindřichův Hradec par Marieta Jnicerová. Les accords de Munich de 1938 privent la Tchécoslovaquie des deux tiers de sa capacité industrielle. N'empêche qu'en 1941, un groupe de chimistes, sous la conduite d'Otto Wichterle, futur inventeur des lentilles de contact, invente une nouvelle fibre, le silon. Après 1945, l'industrie est nationalisée. Trois ans plus tard, le nom de Vladimir Svati s'inscrit dans l'histoire du textile. Il obtient le brevet de métier à tuyère. Le pays continue à être une puissance textile jusqu'aux années 1990, puis une crise qui semble naturelle et inévitable frappe la République tchèque et d'autres pays d'Europe. Et l'avenir, pour Vlastimil Havlík, il réside dans la haute spécialisation, dans la fabrication de tissus spéciaux qui trouvent une application dans l'industrie du bâtiment, les transports, la médecine, dans les équipements spéciaux de protection contre le feu, pour habiller des sapeurs-pompiers, les soldats. Bref, il s'agit de produire ce qui peut faire face à la concurrence.
Vous écoutez Radio Prague, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous comme d'habitude sur www.radio.cz. Au revoir, Nasredana.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 9.